Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à 10 minutes de Trappes, dans un petit hameau des Yvelines. Tout près, il y a des communes chics, mais aussi des grands ensembles, les cités trappistes. Il y a des petites routes, presque des routes de campagne, et juste à côté, des autoroutes. Des riches pas très loin et des pauvres à côté, pas mal d'immigrés, deuxième génération surtout, et des classes moyennes plutôt modestes. La maison de Nathalie et Daniel est en pierre, ancienne, très grande, tellement qu'on n'a pas vu toutes les pièces. Certaines ne sont même pas aménagées. C'est une maison de famille, un héritage bienvenu, mais que le couple a du mal à entretenir et à chauffer. Du coup, l'hiver, il fait très froid. Il y a bien une cheminée, mais elle ne flambe pas très souvent. Pas de soupe, pas de bois. Quand on est dans cette maison, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui est là ou pas, ni ce qui se passe à l'autre bout de la maison, ce que font les uns ou les autres. La famille prend rarement ses repas ensemble, chacun vit à son rythme. La cuisine est parfois en désordre, l'esprit est bohème, les parents musiciens. À l'extérieur, du bois coupé et souvent de la boue, deux chiens et dans un enclos, deux chevaux qui sont les témoins muets du deuxième épisode de la première saison de Ma fille sous influence, une série proposée par Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand. Deuxième épisode donc, tout de suite dans Les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Réveillez-vous au lieu de discuter de choses qui n'ont pas d'intérêt. Faites quelque chose ! Faites quelque chose !
C'était un cas particulier, Emma.
Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont faites avoir par ça, mais elles y restent quand même.
Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille.
Entre 60 et 80 habitants de Trappes ont cherché à rejoindre Daesh.
Elle avait un visage tellement fermé.
Nous sommes en 2015. Avant les attentats du 13
novembre. Et puis après, histoire terminée, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais.
Voilà maintenant 3 jours que Nathalie et son mari ont reçu un coup de fil du centre de prévention des dérives sectaires. Il y a un départ en Syrie prévu pour votre fille le 18 octobre, lui a-t-on dit au téléphone. Si le ciel leur était tombé sur la tête, ça n'aurait pas été pire. Nous sommes en 2014, l'État islamique est en pleine expansion. Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat et dans la foulée, des dizaines de groupes prêtent allégeance à l'État islamique. Emma a 15 ans, elle est en seconde. Dans la famille, personne n'est religieux, pas plus chrétien que musulman. Quand Emma s'est convertie à l'islam, il y a quelques mois, ses parents n'ont pas pris ça très au sérieux. Mais là, tout d'un coup, il y a un départ imminent. L'effet de réel est saisissant. Emma a été vue par le centre censé la déradicaliser. Ses parents ont assisté à une partie des entretiens. Mais là, Nathalie décide de passer à l'attaque.
On rentre à la maison et du coup je mets le canapé devant la porte d'entrée, direct. Et là j'ai dormi dessus pas mal de temps. Ensuite, consigne, on s'est organisé avec mon mari. J'ai pratiquement arrêté de travailler du jour au lendemain. Et on s'est donné des tours de garde, c'est-à-dire que mon fils allait au collège, ma fille allait au lycée, donc on n'a plus voulu qu'elle prenne le bus, on l'a emmenée en voiture tous les matins au lycée, on la déposait devant le lycée, on vérifiait qu'elle rentrait bien par le portail, puisqu'il n'y avait qu'une seule sortie, une seule entrée, et on la surveillait. Alors moi je faisais par exemple le premier quart et puis Daniel faisait le deuxième. Et on y allait avec le sandwich et le café de chez McDo. Entre-temps, bien sûr, j'ai été voir le CPE, donc le proviseur du lycée, pour lui dire interdiction formelle de laisser ma fille sortir. Elle va forcément à la cantine, elle n'a pas le droit de sortir. Je vous demande votre aide. Je lui explique légèrement, imaginez le truc en 2014, c'est-à-dire que le mec, il me regarde, ça passe par là, ça sort par là direct, il comprend pas. Donc, il me dit oui, d'accord. Et puis, en fait, 3 jours après, elle sort avec 2 copines et on l'arrête en route. Mon mari va lui sauter dessus. Emma, où vas-tu? Ne nous laisse pas, en pleurs, mon mari, complètement paniqué, tout ça. Ne t'en va pas. Mais j'y crois pas. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai honte, papa, 20 ans. Et en fait, elle allait au kebab avec ses copines. Et puis, bah voilà, les consignes n'étaient pas suivies par le lycée. Donc nous, on l'a surveillée H24. Et on l'attendait jusqu'à la sortie, devant le portail du lycée. Voilà.
Le lycée d'Emma est collé à la ville de Trappes, dans les Yvelines. Avec son frère et ses parents, la jeune fille habite à 10 minutes de là, dans une maison en pierre. Mais c'est à Trappes qu'Emma retrouve ses copines, traîne avec elle au marché le mercredi ou le samedi. C'est aussi là qu'elle fréquente la mosquée. À Trappes, de nombreux jeunes ont déjà pris la route de la Syrie et de l'Irak. Les recruteurs de Daesh ont alors pignon sur rue. Ils ont fini par se faire expulser de la grande mosquée par les responsables du lieu, mais ils ont élu domicile juste à côté, dans un kebab appelé le Chicken Planet. Ils y passent des après-midi entiers. Attablés autour d'un thé qu'ils font durer des heures, ils incitent les jeunes à rejoindre les rangs de l'État islamique. Parmi eux, il y a un dénommé Samir, identifié par la justice comme le plus actif.
Samir, c'est le recruteur qu'on voyait tous les jours dans le fameux kebab que fréquentaient ses élèves. Enfin, des gens qui appartenaient à l'école de Samir, quoi. Ils étaient parfois 8. Donc ils prenaient les tables, ils s'accaparaient les tables, ils prenaient un café parfois, ils pouvaient rester 3 heures. Ils leur montaient la tête, quoi. Ils essayaient de les recruter.
Et vous, il a essayé de vous recruter?
Non, moi, il savait pertinemment que c'était impossible.
Le garçon que vous entendez, c'est Malik.
Il fréquentait aussi cette mosquée, Samir.
Un jeune homme qui vit à Trappes depuis toujours.
Il était juste à côté.
Il connaît très bien la nébuleuse djihadiste.
Donc voilà, c'est la grande mosquée de Trappes.
Un temps, il a même donné des informations au service de renseignement.
On se donnait des rendez-vous dans un lieu, à Versailles souvent, dans le même bar. Et on me montrait des photos. On me montrait une petite quarantaine de photos. Qu'on me demandait en gros d'identifier si la personne, je la connaissais. Et si je savais qu'elle était partie ou pas, ou qu'elle comptait partir. Parce que je savais qui était radicalisé, quoi, et si je connaissais la personne ou pas.
Et vous en connaissiez combien?
On va dire à peu près la moitié. Pour la plupart, c'est des gens qui sont morts. À ma connaissance, aucun n'y est revenu.
En tout, selon les estimations des services de renseignement, 80 trappistes ont rejoint les zones de guerre de Daesh. Pour une ville qui ne compte que 31 000 habitants, c'est considérable. Des jeunes sont partis sans crier gare, en laissant un mot sur la table de la cuisine. Comme Marwan, un jeune de Trappes qui devait passer son bac en juin 2015 et dont on est aujourd'hui sans nouvelles. Il a laissé une lettre sans équivoque, produite comme pièce à conviction dans une affaire de terrorisme. Il l'écrit: j'ai rejoint l'État islamique, un État qui ne juge que par la voie de la charia et qui suit la voie des salafs, écrit-il. Ne croyez pas qu'on m'a lavé le cerveau, je suis grand, j'ai réfléchi longtemps, et le mieux pour moi est de faire la hijra. Beaucoup sont morts dans les combats, certains ont commis des attentats suicides, d'autres ont été tués par des drones ou par des commandos de la coalition internationale. Trappes détient donc le record national du nombre de départs pour rejoindre Daesh, le Cham, comme disent les adeptes. Mais ça, Nathalie et Daniel ne le découvriront que plus tard.
Salam alaikum. Kayfa halouka? Ça va, mon frère?
Sha'araoui.
Sha'araoui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez, des koutoubs de Sha'araoui?
Ibrahim, qui tient l'unique librairie islamique de Trappes, en face de la mairie, connaît bien les jeunes de la ville. Il appartient au courant tablir, rigoriste et prosélyte, mais anti-Daesh. C'est un missionnaire. Il a contribué à l'islamisation de Trappes.
Peut-être que Allah va vous donner ça.
Au début de la vague de Daesh, les jeunes, comme Emma, sont venus dans sa boutique. Des parents également.
On a eu des parents qui sont venus inquiéter des positions rigoristes qu'avaient leurs jeunes. Bon, je vous donne un exemple. Un jeune qui malheureusement est passé à l'acte, pour autant d'avoir essayé de le convaincre, un jour de venir à la boutique et puis de me dire oh, je voudrais tellement aller à la base de loisirs. Et puis les gens français, chinois, portugais qui sont en train de manger du cochon, faire griller leur cochonnade et puis boire leur vin, de leur mettre un coup de pied là-dedans et tout ça, de lui répondre mais pourquoi, et de me dire pour qu'ils comprennent que la loi de Dieu elle est la plus haute. Mais je dis mais en faisant cela, est-ce que tu vas les faire aimer la religion ou est-ce que tu vas les faire détester? Non, non, mais de toute façon, il faut qu'ils craignent Dieu et tout ça. Bon.
Et ce garçon, il est passé à l'acte.
Voilà.
Mais pour être précis, ce garçon, il a commis un acte terroriste.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Sur le sol français. Donc sur la librairie Nour et Hidayah, il y a certains ouvrages que j'ai décidé de ne plus diffuser. Donc il n'y a plus de livres de courant wahhabite. Du fait des messages négatifs qu'elle draine, on n'avait pas perçu le caractère catastrophique de ce genre de lecture. C'est au fur et à mesure que on a vu des personnes nous argumenter en nous disant mais si tel savant a annoncé que et tel dans tel livre s'est prouvé que on s'est penché réellement sur la question. Voilà. Et donc il y a des théories qui relèvent vraiment d'un profond racisme et puis aussi d'un non-droit à la différence quoi. C'est l'adage, hein, si, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Oui, madame.
Malgré ça, Nathalie, la mère d'Emma, n'a pas été voir Ibrahim pour lui demander de l'aide. Elle pense même que c'est là qu'Emma a acheté certaines de ses tenues intégrales, ses hijabs, ses djelbeb, et les accessoires toujours plus nombreux de sa bigoterie grandissante.
Allah vous garde, ma soeur.
Ça ne lui rend pas ce libraire très sympathique.
Allah.
Il y a des choses qu'elle a pris là-bas, et puis il y a des choses qu'elle a achetées ailleurs, hein, puisque donc, je suis passée chez elle dimanche soir, la pile, elle n'arrête pas d'augmenter, quoi. Il y a encore 3 autres bouquins, alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Des petits trucs reliés, des petits livres de poche, des petits machins, ça c'est vraiment du gadget, quoi. C'est carrément du packaging, on voit, tu vois, vraiment. Et puis elle a le gros bouquin rose pour les filles, alors, où on parle des règles pendant 35 pages, et puis après, on met 50 pages sur le mariage. Voilà. La fille qui est impure quand elle a ses règles. Et puis là, j'en ai vu des tout petits reliés, hein, avec en cuir, tout relié, très joli, c'est un peu genre gothique. Je dis, tiens, voilà. Donc je pensais que c'était une boîte à bonbons, j'en sais rien. Moi. J'ouvre le truc, et c'était un petit Coran aussi dedans. En tout cas, c'est un truc écrit en arabe, grand comme ça. Tout relié, très beau. Voilà.
À ce moment-là, voit, avec son mari, il pense y arriver tout seul.
Les tapis, les
d'ailleurs, ça y est, la date du départ d'Emma en Syrie, le fameux 18 octobre, est passée. Et leur fille est toujours là. Nathalie pense qu'il suffira de la surveiller étroitement.
C'était vachement intrusif. Et puis elle était en prison, elle ne pouvait plus sortir. Une fois, elle s'est barrée pour rejoindre son petit copain. Donc j'ai essayé de la suivre, je l'ai perdue en route vers la Défense et machin. Enfin, voilà, donc j'ai appelé des copines pour essayer de voir si on pouvait pas la récupérer par-ci par-là. Enfin, c'était la panique. Une ou deux fois, elle s'est échappée pour aller retrouver son petit copain.
Peu après, Emma demande à sa mère l'autorisation de faire du babysitting. Après tout, pourquoi pas? Nathalie se dit que la vie normale doit reprendre son cours. Mais là encore, c'est à Trappes que ça se passe.
Voilà, c'est exactement là. Je me garais juste en face. Donc je me mettais à l'intérieur, tu vois, de ce petit parking et j'attendais parce que, en fait, la résidence, elle est fermée par une barrière. Et donc là, je pouvais même pas y accéder parce qu'elle voulait pas que je la dépose devant. Mais elle me faisait déposer devant la rue, la grande avenue là-bas. Et en fait, toujours dans son idée de que je repère pas trop, en fait. Donc je la déposais et je rentrais à la maison et elle me rappelait pour me dire quand venir la chercher, enfin, comme tous les babysitting de la planète. Du coup, je voyais des chaînes de 10, 12 filles en djilbeb, genre la guirlande de chauves-souris qui se trimbalait là pour rentrer dans l'immeuble. Et là, je me dis, c'est bon, ça y est, j'ai compris, c'est une réunion salaf. C'est quand même dingue, cette espèce d'hypocrisie, de mensonge permanent, alors que leur leitmotiv, c'est la vérité, véridique, machin, c'est que des mots comme ça qu'ils ont dans la bouche. Mais laisse tomber, je me marre grave.
Ça n'est basé que sur de l'hypocrisie, de l'emprise, de la mesquinerie, du rejet des autres. Et ça, tout dans les moindres états. Tu peux déconstruire ce truc sans problème, sauf avec des gens qui sont sous emprise, forcément. Mais quant à ton cerveau, tu peux déconstruire le truc tellement vite fait, quoi.
Je tourne à droite ?
Oui, ouais, ouais.
Jusque-là, Nathalie a toujours laissé sa fille libre de ses mouvements. Lui poser des questions, la fliquer, comme elle dit, ça ne lui serait sûrement jamais venu à l'esprit. C'est contraire à ses principes.
Voilà.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle fréquente une mosquée de trappe, et surtout des lieux de culte clandestins. Et ça, ce n'est pas possible pour Nathalie. Elle pense qu'il faut l'éloigner de Trappe de toute urgence.
Il y avait quand même des vacances scolaires. Et je me suis dit, super, je vais l'envoyer à Grenoble, chez sa grand-mère, comme ça elle sera surveillée H24. Et donc, à Noël 2014, j'ai mis ma mère dans la confidence. Je lui dis, bah, je t'envoie Emma, comme ça tu la surveilles, elle est bien en sécurité chez toi, etc. Quelques temps, donc elle est allée à Grenoble, et puis elle disait à sa grand-mère, bon, bah, mamie, je sors place Grenette avec mes copines, on va manger une glace place Grenette. Et puis en fait, elle retrouvait des sœurs qui sont recruteuses très agressives, prosélytes, qui l'avaient alpaguée à Grenoble. Donc, elle allait à la mosquée et probablement qu'elle allait à des réunions moultes et variées ou des contacts avec des recruteurs. Ça, c'est pratiquement sûr. J'ai fini par prendre conscience de la multiplicité des façons d'accrocher ma fille. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille. Et je me rends compte, finalement, on est en sécurité nulle part. J'arrive à mettre ma fille en sécurité nulle part.
Pendant ce temps, Emma continue de suivre les séances de désembrigadement de Dounia Bouzard. Mais de toute évidence, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Lors d'une séance collective à laquelle elle participe, Nathalie fait la connaissance d'une autre maman, Virginie. À 15 ans, sa fille, Clara, a fait une fugue. Son père l'a récupérée dans un appartement près des buts de Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris, et cet appartement était identifié par la police comme un lieu occupé par des salafistes. Alors, Virginie et Nathalie sont devenues amies.
Emma, je la voyais régulièrement, puisque toutes les séances qu'elle faisait, elle les faisait avec ma fille. Et au fur et à mesure des séances, on les voyait quand même plus souriantes. Alors, ce n'était pas le cas de toutes les enfants. Emma, elle, c'était une des filles qui parlait le moins. Elle était très secrète, très, très secrète, ce qui n'était pas le cas de la mienne. La mienne parlait beaucoup. Elle était très secrète et on avait du mal, en fait, à savoir ce qu'elle avait dans la tête. Vraiment. Et même au sortir des réunions, quand on avait une espèce de débriefing, on savait pas du tout à quoi s'en tenir. Sachant que on ne savait absolument pas ce qui se disait pendant les réunions. C'était vraiment à huis clos avec le CPDSI et les filles.
Pour savoir ce qui passe par la tête de sa fille, Dounia Bouzard pense que Nathalie devrait rencontrer Brandon, le petit ami d'Emma. Et Nathalie accepte de jouer le jeu.
Ma fille, trop contente qu'on fasse venir son petit copain, donne le numéro et on appelle ce jeune gars. Et contre toutes mes attentes, bizarrement, le gamin accepte de nous rencontrer. Donc on y va avec Dounia Bouzard, sa fille Laura. Et donc nous voilà partis tous les quatre, pas loin de la gare du Nord, pour retrouver donc ce fameux jeune garçon. Et on se retrouve dans un bar avec lui, et là je découvre pour la première fois le petit copain de ma fille. Donc effectivement, un gamin de 19-20 ans, pas plus, tout mignon, avec des yeux de biche, enfin adorable, super beau, un peu dans l'expectative, parce que bah, quand même il accepte de venir nous rencontrer, il y avait quand même quatre personnes devant lui, et puis on la scène de questions, tout le monde lui saute dessus, on lui saute dessus direct. Qu'est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux un pain au chocolat? Parce que le signe, à l'époque, dixit Dounia et Laura, c'est s'il ne veut pas boire un jus d'orange et s'il ne veut pas manger une viennoiserie, c'est qu'il est totalement radicalisé. Donc, tous les plans. Donc, voilà. Est-ce que tu veux un pain au chocolat? Est-ce que tu veux un jus d'orange? Et alors, il a bu du jus d'orange, il n'a pas pris de viennoiserie. Et le jeune mec jouant le jeu en disant « mais non, tout va bien, on s'aime, etc. » Enfin bon, voilà, le truc. Et puis à ce moment-là, je le regarde et puis je joue mon rôle de merde. J'avais été un peu briefée par Dounia. Donc je dis « Tu sais, Emma, musulmane, donc voilà, moi je suis sa maman, j'ai besoin de savoir où est-ce que tu en es, j'ai besoin de faire confiance, etc. Je vois votre relation de manière bienveillante, mais j'ai besoin de savoir, etc. » Donc j'embobine le jeune, qui effectivement, pour moi à ce moment-là, avait l'air super attachant. Et puis de toute façon, j'étais trop fragile pour imaginer à moins de malveillant. Je pouvais pas imaginer que ce jeune mec aussi mignon pouvait être un recruteur qui pouvait enlever ma fille. Je pouvais pas imaginer ça. Alors je suis partie de cette réunion en me disant super. C'est un gamin qui n'est pas radicalisé, c'est pas son recruteur, c'est pas possible, c'est son petit copain, il est mignon ce gamin, etc. Je suis partie comme ça, parce que j'étais, je pense, beaucoup trop fragile pour avoir la moindre lucidité sur la situation, c'était évident. Sortant de ce rendez-vous, Dounia et Laura me disent, objectivement, on pense pas que le jeune soit radicalisé. On était donc de nouveau chez les bisounours dans notre famille, plus rien, enfin l'orage était passé, on avait réglé toutes les histoires. Donc nous allons pouvoir nous réunir tous avec le joli petit copain d'Emma et on va tous se retrouver à la maison.
Difficile donc de se faire une opinion définitive sur le copain d'Emma. Est-ce que c'est lui qui l'a recruté ou quelqu'un d'autre ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire recruter quand on parle de deux adolescents de 15 et 19 ans ? Pour Dounia Bouzard, il appartenait au salafisme low cost.
Pour définir tous ces jeunes qui se disent salafistes mais qui connaissent pas grand-chose de l'islam et qui trouvent une justification à s'auto-exclure et à exclure les autres. Voilà. Je sais que c'est plus simple si on dit là il y a les recruteurs puis là il y a les recrutés. C'est pas si simple. Chaque jeune qui adhère à cette idéologie a tellement l'impression qu'il découvre la solution pour en finir avec la corruption de la loi humaine que de toute façon, il embrigade tout ce qu'il y a autour de lui. Et il l'embrigade de manière pas forcément consciente. Ça devient pour lui une aide. C'est tous les gens qu'il aime, il va essayer de les emmener avec lui. D'où les fratries et les embrigadements amoureux.
Les spécialistes eux-mêmes s'écharpent sur la question de savoir pourquoi les jeunes sont attirés par le djihad et Daesh, et comment ils se radicalisent. Deux camps s'opposent. D'un côté, Gilles Kepel pense que le facteur religieux est essentiel. Pour lui, c'est l'influence grandissante de l'idéologie salafiste qui conduit les jeunes à verser dans la radicalité. Pour Olivier Roy, les jeunes se tournent vers l'islam radical en raison d'un malaise identitaire, et pour des raisons plus sociales, plus sociologiques. D'un côté, la radicalisation de l'islam, et de l'autre, l'islamisation de la radicalité. Nathalie, elle, reste sur le terrain et se bat.
Donc je le fais venir à la maison. Bon, j'apprends que c'est un jeune mec qui n'est plus en contact avec sa maman depuis l'âge de 7 ans. Donc évidemment, ma fibre maternelle fait 3 tours. Qu'il est parti donc du Congo très très jeune, qu'il est venu avec son père s'en occupe plus, qu'il a fait des foyers, et puis finalement j'apprends quand même qu'il se bagarre, qu'il essaye de faire un peu des choses, voilà. Alors coach sportif, alors là, bah, si votre enfant dit que son petit copain ou sa petite copine est coach sportif, alors là c'est un truc rouge qui s'allume, parce que alors, les radicalisés sont des coachs sportifs. Bon voilà, je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai. Donc, ce fameux Brandon est coach sportif et donc il vient à la maison un week-end, deux week-ends. Moi, très gentiment, je fais à manger halal, etc. Ma fille toute contente, etc. Je lui interdis néanmoins de mettre un djilbab pour aller le chercher à la gare, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais enfin, on voit bien quand même qu'elle change totalement d'attitude quand il arrive. Alors lui, il se met devant, et puis elle est bien assise derrière, toute soumise, baissant les yeux. Elle marche derrière lui. Enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est pas la fille que j'ai élevée, hyper branchée, féministe, machin. Ma fille doit être libre, etc., autonome. Je suis choquée quand je la vois faire. C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'elle est carrément dans un autre monde. Et puis, néanmoins, ça se passe quand même bien. Même un soir, d'ailleurs, Brandon fait à manger, nous fait un beau repas, etc. On parle bien. Bon, on sent quand même le gamin un peu trop branché sur les Porsche Cayenne et pas vraiment sur la culture. Mais enfin, bon, voilà, hein, tout le monde a le droit de vivre, je dis rien. Il est quand même assez attachant. Donc, je me dis finalement, tiens, si je l'intégrais dans la famille, et puis bon, je vais l'adopter, on va faire un truc grosse naïve. Et puis donc je pars comme ça, en me disant tout va aller pour le mieux, etc. Jusqu'au jour où ma sœur m'invite, donc elle habite en banlieue parisienne, et donc je leur dis, venez avec moi, on va aller manger chez ta tante. Et du coup, ils veulent pas. Emma me dit, non, on viendra pas. Et donc je vais les voir, et je regarde bien Brandon dans les yeux, je dis, Brandon, je vous laisse tous les deux dans la maison tout seul, parce que mon mari était en tournée. Je vous fais confiance, vous êtes sage. Sous-entendu, bien entendu, j'espère bien que tu vas pas coucher avec ma fille. Mais t'inquiète pas, Cathy, on est musulmans, on n'est pas mariés, on va faire attention, t'inquiète pas, tu peux compter sur nous. Et donc voilà, je les laisse en décidant de faire confiance. Ma fille, je savais qu'elle n'était pas prête pour une expérience sexuelle, quelle qu'elle soit. Et puis, bah, évidemment, ce qui devait arriver arriva. 3 semaines après, ma fille m'appelle, me fait appeler par l'infirmerie du lycée. Donc, et maman, j'ai une galère, je suis enceinte. Bravo, super, 15 ans et demi, top.
C'était le deuxième épisode de Ma fille sous influence, la première saison, une série proposée par Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand, réalisée par Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main de Mydia Portis-Guérin. C'était une émission qui a été diffusée pour la première fois en mai 2018. Merci à Daniel, à Nathalie, à Isabelle, à Ibrahim, à Céline Houtin et à Sandrine Chaperon. Si vous voulez tout savoir, écouter d'un coup en binge listening ou en binge audio, vous pouvez nous rejoindre sur n'importe quelle appli de podcast et vous abonner à Ma fille sous influence. Vous aurez d'un clic disponible la première et aussi la deuxième saison de cette série.